Les nuits de France Culture.
Chamanisme, nom masculin d'après le Larousse, ensemble de pratiques comportant un état de transe propre à certaines sociétés de l'Asie centrale et de l'Arctique. Avec peut-être un peu de mauvais esprit, on pourrait ajouter cette définition du chamanisme, mot valise désignant aux yeux des Occidentaux toute pratique de divination, sorcellerie, rêve et transe pratiquée d'un bout à l'autre de la planète, dans des cultures n'ayant aucun lien entre elles. Car c'est un fait que le chamanisme connaît en Occident, depuis déjà plusieurs décennies, un certain engouement. Engouement aux popularités qui doit autant à Mircea Eliade qu'à Carlos Castaneda. Mais il est permis de douter de l'universalité de la pratique chamanique, ou plutôt néo-chamanique, telle qu'elle est comprise ou perçue en Europe et en Amérique du Nord. Des chamanismes, évidemment, existent bel et bien dans un certain nombre de sociétés dites traditionnelles. L'émission que vous allez entendre dans un instant proposait en 1963 de découvrir justement une pratique chamanique du sud mexicain, et pas n'importe quelle pratique, celle de la célèbre guérisseuse Maria Sabina. Voici donc Le Chaman, troisième épisode d'une série d'émissions sur les plantes divinatoires et les champignons hallucinogènes dans La Liberté Coupable. C'était sur la RTF le 9 novembre 1963.
La radiodiffusion télévision française présente La Liberté Coupable. La Liberté Coupable, troisième série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composée par René de Sellier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, Le Chaman avec Roger M., directeur du muséum.
Dans le rituel des champignons sacrés tel qu'il est actuellement pratiqué au Mexique, l'un des personnages clés est le chaman. Qu'est donc ce personnage, ou d'abord que signifie le mot? Ce mot viendrait de shramana, nom donné en Asie centrale d'abord à Bouddha, puis aux prêtres bouddhistes. Dans les travaux de l'école sociologique française après les études de Durkheim et de Lévi-Brull, le chaman prend une nouvelle importance. On a hésité un certain temps, même à propos de l'orthographe du mot, qui maintenant est francisé, et pour les ethnologues et les anthropologues de l'école américaine, le chaman a aussi nom medicine man. Il est évident que les termes que nous employons, qui pourraient être des équivalents afin de définir le personnage en question, homme ou femme, termes qui sont sorciers ou sorcières ou encore prêtresse ou prêtre, ne conviennent absolument pas. Il nous faut donc essayer de particulariser l'homme qui, dans une tribu, que ce soit en Sibérie, dans les peuplades altaïques, ou que ce soit en pays mazathèque, homme ou femme qui joue un très grand rôle dans la population, et cette population n'est pas forcément tribale. D'abord, ce personnage, près du chef de tribu, près du roi, ou si l'État est démocratique, près d'un président, joue un rôle comme effacé, mais en fait extrêmement voyant, à la fois public et secret. Toute la vertu du chaman réside dans le fait qu'il connaît les pouvoirs des herbes. Il est non pas le rebouteux, il est non pas le médecin et le vétérinaire, le prêtre et la prêtresse, le sorcier et la sorcière, il est celui ou celle qui sait, et la plupart du temps, depuis les plantes. Nous entrons désormais en deux domaines, celui de l'ethnologie. L'ethnologie culturelle s'est développée depuis les travaux des historiens des religions, en particulier depuis les travaux de Mircea Eliade, qui a analysé le chaman dans les années 1946-51, et ces différents travaux maintenant débouchent en ethnobotanique, dont le professeur M devient l'un des spécialistes. L'une des caractéristiques de la vie de chacun dépend du monde des images qui nous atteint. Et ces images, comment les connaissons-nous? Nous les connaissons par les rêves, ou plutôt par la mémoire des rêves, par ce qui surgit après le rêve, et les images, nous les pratiquons au cours de certains états, ces états pouvant dépendre de l'ingestion d'une plante, en l'espèce les champignons. Il y a donc toute une étude des rêves à conduire, et surtout toute une étude des images, et ces images sont initiatiques. Premier point, le chaman est en relation avec le monde, nous découvrons par des rites qui jusqu'alors étaient secrets un lien entre chamanisme et cosmologie. D'où une autre définition de l'âme qui va être amenée à manier les pouvoirs au sein d'un groupe tribal, le chaman ou l'âme médecine, depuis les travaux de Holmberg Harva sur le chamanisme altaïque, le chaman est celui qui véritablement semble être le psychologue et peut-être même le sociologue d'un groupe. Il n'en reste pas moins que la sociologie du chamanisme reste à écrire, Mircea Eliade est formel sur ce point dans son ouvrage sur le chamanisme, et il n'en reste pas moins que c'est à la suite d'une rencontre entre hommes, entre savants, explorateurs et écrivains, c'est à la suite d'une série d'expéditions à la fois au nord du monde, enfin en Sibérie et dans les tribus altaïques, et au sud, c'est-à-dire au Mexique et au centre du Mexique, c'est à la suite de cette série de concours, de circonstances, que désormais l'on commence à approcher le concret humain et historique, à la fois des groupes, des documents, des faits, des preuves, puisque nous avons trouvé des pierres et des fresques, des êtres. Les ethnologues tiennent compte, évidemment, de ce concret humain et historique. Et là, nous sommes en pleine forêt, mais cette forêt commence à livrer ses secrets. Grâce aux monographies ethnologiques en particulier, et ces monographies peuvent et doivent situer le chaman, doivent et peuvent situer la Maria Sabina dans son milieu culturel, le Mexique, le pays mazatèque. C'est à l'ethnologue, doublé d'un comparatiste, c'est au savant, Gordon Vasson, qu'il appartient de décrire et de comparer les séances, d'enregistrer les textes, les mélodies, de préciser quel est l'usage des plantes ou des narcotiques, car en effet, le medicine man excelle dans ce genre. Le chaman, personnage clé, est en Sibérie, dans les tribus altaïques, très nettement un personnage qui va se manifester au cours de cérémonies, la plupart du temps nocturnes, cérémonies dans lesquelles on perçoit diverses phases. Et vous verrez peu à peu combien les concordances sont curieuses du nord au sud. Pour l'instant, nous sommes au nord, au pays du bouleau. Le chaman entre non pas en transe ou en extase, mais il se livre au rite de l'escalade, qui, sur le plan initiatique, correspond au vol ou à un autre état que nous appelons lévitation. Il est évident qu'il s'agit d'une lévitation psychique et non pas du tout d'un fait réel qui a pu être rapporté par l'histoire des mystiques, la lévitation consistant alors dans un léger envol, les pieds quittent le sol selon certains témoignages. Ce qui est appelé lévitation psychique est tout simplement le fait de rêver sous les astres, sous l'action d'une plante ou d'un produit. L'escalade est effective lorsque le chaman s'y prête. Rituellement, il grimpe sur un bouleau dans lequel on a ménagé un certain nombre d'échelons. Et ces échelons correspondent aux phases d'une expérience. Le bouleau, ici, symbolise l'arbre du monde et les échelons représentent les divers cieux que le chaman doit traverser au cours de son voyage extatique au ciel. En effet, il y a une montée et toute montée, précédé évidemment d'une descente aux enfers, toute montée ne peut être entreprise que vers le ciel. Et le schéma cosmologique impliqué dans ce rituel serait d'origine orientale, nous pensons qu'il y a eu une très curieuse communication du nord au sud. De toute façon, nous avons pu constater des parentés entre les rites pratiqués par ce chaman altaïque et les rites pratiqués par cet autre chaman au Mexique, la Maria Sabina. La Maria Sabina, chamane de Huautla de Jiménez, merveilleuse télépathe, a l'intelligence de brouiller les airs pour ceux qui l'affrontent. Des savants sont venus vers elle, en quelque sorte voués à l'expertise horaire. Nous avons essayé de tenir un calendrier, non pas minute par minute, mais de minute en minute, et il est évident que peu à peu, le temps s'est effrité. Nous étions désormais dans un temps autre, et la chamane, elle, connaissait certainement déjà l'arrière-fond de chacun de nous et nous aidait à cette sorte de destruction du temps qui, bien entendu, se situe quand même dans un lieu. Lieu extraordinaire, caractérisé par ses monuments, caractérisé par un art populaire extrêmement violent dont nous parlerons, caractérisé par ce culte fort curieux du serpent et particulièrement du serpent à plumes. En un sens, les rites des champignons, la chamane, la Sabina en étant, si vous voulez, l'officiant, en un sens, ces rites des champignons se polarisent autour de cette idée du serpent jeunesse du monde, du serpent de l'ophidien, c'est-à-dire de l'animal qui fait voir, et il y a là tout un étrange bestiaire. Je crois que le Mexique, dans ses pyramides, par son goût pour les plumes et les verroteries, le Mexique ne peut être compris que dans la mesure où le mythe du serpent à plumes est décrypté. Mais quelle est donc la relation entre serpent et plumes ? L'adoration du serpent dans ces pays nous remet en mémoire d'abord un vieux mot, ophiolatrie, et d'autre part le fait que la plupart des religions primitives ont eu pour objet de culte un animal. Nous sommes loin maintenant dans les études sociologiques de l'importance concédée au totem ou au tabou. On essaie de creuser le bestiaire et il n'est pas question ici du mythe d'Éden rapporté dans la Genèse, du serpent identifié à Satan. Au contraire, l'on songerait plutôt à Typhon, le dieu égyptien du mal, et l'on songerait surtout à la Grèce antique et au serpent d'Esculape. Le serpent à plumes figure abondamment dans l'art religieux maya et aztèque, et l'on sait de tout temps que les femmes jouent un rôle de premier plan dans les cultes du serpent, ces cultes dits ophiolatriques. Or, il est très curieux et très singulier pour nous qui venons d'Occident de retrouver au Mexique une femme qui nous met en présence, les images se multipliant, la période noire aidant, de ce monstre, de ce dragon appelé serpent, vous connaissez son autre nom, Draco, et le dragon est encore l'un des éléments de clairvoyance. Comment passe-t-on du dragon aux plumes ? Eh bien, nous retrouvons alors la vérité des phases ou des paliers de l'expérience de la période noire aux périodes étincelantes. En un sens, les plumes se sont greffées, les plumes, les étincellements, si vous voulez, les phosphènes, les points de brillance, se sont greffées sur le serpent levé, pierre cosmique ou grande pyramide du bestiaire, et les plumes ainsi ornant le corps en torsion célèbrent la spirale. Il y a chez les Mexicains ce goût extraordinaire pour le cercle, perçu depuis le haut de l'observatoire, et surtout pour la spirale. Tel observatoire est construit en forme de spirale, le serpent, le grand serpent tropical, est levé en forme de spirale, il est hérissé, non pas menaçant de dards, comme dans l'iconographie chrétienne, il est hérissé et jonché de plumes, et celles-ci s'agglutinent. Les plumes jouent alors le rôle de l'élément visionnaire. Le serpent est le dragon qui fait voir et les plumes, en un sens, sont comme la conjuration du mal, mais pour parvenir à cette conjuration, l'intermédiaire du chaman, de la Sabina, est indispensable. Il faut être pris dans le rituel pour pouvoir affronter et la bête et l'étincellement, le serpent à plumes. En conclusion, et par rapport à cet ensemble de rites qui concernent le culte des champignons sacrés et qui précise le rôle joué par le serpent à plumes, il nous faut bien dire que la Sabina n'est qu'un chaman parmi les chamans et que pour nous, le lien est désormais fait entre l'Asie, la Grèce et le Mexique. En effet, la femme a toujours joué, par rapport aux pratiques divinatoires, un très grand rôle. L'on peut songer, dans l'optique alors méditerranéenne, aux sirènes. Ovide précise à tel moment « D'où vous viennent vos plumes ?» Les sirènes, donc, possédaient des plumes, et un autre vers, le vers 560 des Métamorphoses, précise encore « Vous avez vu vos membres se couvrir d'un fauve plumage. » Ainsi, du nord au sud, et d'un continent à l'autre, nous découvrons ce bestiaire où l'étincellement a comme personnage conducteur une femme, celle-ci étant associée au monstre que l'on doit bien appeler hybride. La raison des métamorphoses, nous devrons l'examiner au fur et à mesure. Il est évident que les plumages d'une contrée à l'autre diffèrent pour l'instant au Mexique. Nous sommes sensibles surtout à l'extraordinaire féerie des couleurs, même dans l'art populaire. Un mot clé, initiation. Que veut-il dire ? Je souhaiterais qu'il n'y ait là aucune ambiguïté. D'abord, l'initiation impliquera une connaissance du monde et des rites. Elle ne signifie pas du tout l'adhésion à une société secrète. Certes, le rituel est secret, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut accéder près du personnage que nous nommons chaman et que vous connaissez maintenant, mais il est évident que l'ambiguïté doit être levée. Chez les peuples primitifs, définition donnée alors par l'historien Van Gennep, il s'agit en fait d'initiation de rites accomplis pour marquer l'accession à la puberté d'un garçon ou d'une fille. Ces rites ont été nommés rites de passage et il s'agit alors d'une période considérée comme dangereuse et en fait il s'agit la plupart du temps de l'entrée dans la vie sexuelle et aussi de la formation du chasseur, la plupart de ces tribus vivant de la chasse. Il est évident que les rites de passage impliquent des épreuves, et où nous trouvons une équivalence à propos de l'initiation aux champignons sacrés, c'est dans le fait que la période noire, la période des premières images, la période, si vous voulez, du dragon, correspond bel et bien à une sorte de lutte. Et il n'y a pas d'initiation sans lutte. D'autre part, vous devez vous souvenir de l'importance du labyrinthe et du mythe de la caverne, même chez Platon. Le labyrinthe commence seulement maintenant à être redécrypté. Eh bien, le labyrinthe est encore un lieu initiatique. Et lieu initiatique veut simplement dire endroit où l'on affronte. Ne pensez pas que dans la mesure où l'on affronte, on sait. Il faut surtout sortir victorieux de l'épreuve, et avant que de s'engager dans l'épreuve, il faut être armé. Il ne s'agit donc pas là d'un combat de tout repos, et en conclusion, il ne s'agit pas d'acquérir des sortes de connaissances magiques ou des connaissances du docteur Faust. Il s'agit, je crois, plus simplement, que l'homme retrouve son identité et que l'homme retrouve sa place dans l'univers. En effet, le chamanisme est une cosmologie, et l'âme or des Mexicains, le personnage triomphant est avant tout l'âme du cosmos. En ce qui concerne les rites de cueillette, Monsieur le professeur OGM a pu assister, comme la plupart des membres des diverses expéditions, a pu assister aux conditions qui permettent de réunir les espèces dont nous parlions. Qu'est-ce qui a attiré particulièrement votre attention ?
Généralement, cette récolte se fait, alors quand les Mexicains la pratiquent eux-mêmes, se fait au petit jour, quand l'air est frais, disent les anciens textes. Et auparavant, ils doivent être à jeun, et il est nécessaire, selon les régions, de pratiquer une abstinence de 2, 3 ou 4 jours avant et autant après, et au moment même de ces expériences, de cette récolte, bien sûr, et de l'expérience. Nous sommes donc arrivés sur une prairie en pente, moussue, humide, à peu près à l'altitude de 1800-1900 mètres, au voisinage de 2000. Et puis alors, brusquement, nous sommes tombés en arrêt devant ces petits champignons qui ne sont pas très faciles à trouver, avec leurs pieds très élégants, un peu perdus dans la mousse, et qui en recouvre la partie inférieure. Et puis alors ce chapeau, ce très joli chapeau, acéré, comme un casque conique, avec une petite pointe, qui d'ailleurs peut dans d'autres espèces se prolonger presque indéfiniment et former une sorte de prolongement, quelquefois atteignant 1 centimètre au-dessus du chapeau. Alors nous avons donc récolté ces champignons. À partir du moment où on voit où ils se tiennent et quel est leur aspect, on les retrouve. On en a retrouvé pas mal comme cela. Et puis en redescendant, j'en ai retrouvé dans les champs de maïs aussi. J'étais très heureux de m'être rendu compte que dans les maïs, on pouvait le trouver également, ce qui s'est confirmé par la suite. Alors cet environnement, c'est celui que nous retrouvons pour les autres espèces, à peu près les mêmes dimensions, c'est-à-dire les petites. Et sauf celle qui vient dans la forêt relativement primitive, où elle pousse en masse, comme je le disais tout à l'heure, sur les branches. Cette espèce qui est beaucoup plus petite nécessite la consommation de 18 paires, c'est-à-dire 36, car les Mexicains parlent de paires. Quant aux autres champignons, ceux qui viennent sur les résidus du traitement de la canne à sucre, c'est généralement près des moulins à canne à sucre qu'on les trouve dans la pourriture laissée par ce traitement. Alors là, ce sont des masses considérables de champignons relativement énormes. Quant aux apothecorum, qui vient dans l'eau des marécages, il est très difficile, et je ne sais pourquoi, il nous a été presque toujours impossible d'aller avec des Mexicains sur l'emplacement même de ces champignons sacrés. Ils s'y refusaient, ou bien ils nous menaient ailleurs. Et c'est seulement après des quantités d'investigations que nous avons pu en trouver. Je remarque à ce propos que le psilocybe des apothèques vient dans l'eau, comme certains psilocybes de France viennent dans l'eau, mais ceux-là ne sont pas hallucinogènes. Alors ensuite, les champignons sont rapportés en prévision de la séance nocturne. La curandera, ou le chaman, sorcier, les lave, les nettoie. Je passe sur les cérémonies qui, dans certaines régions, comme dans le pays zapothèque ou le pays miché, associent d'une façon assez intime la chapelle catholique voisine avec le rite des champignons. Car, au fond, on peut dire que le catholicisme a modifié sans aucun doute le rituel tel qu'il se présentait au moment où Cortés est arrivé avec les Espagnols à Mexico. Et il y a un enchevêtrement des deux rites, puisque dans ces cérémonies, sur l'autel même, le soir, quand il y a encore quelques chandelles allumées, avant que la cérémonie ne commence, et sur cette table, nous voyons les images du Christ. Et nous voyons un certain nombre d'images chrétiennes à côté des divers ingrédients qui sont ceux du passé et qui sont restés exactement comme ils étaient durant la période pré-cortésienne. Alors, le rite est extrêmement compliqué. J'insisterai sur le fait que le champignon, après avoir été nettoyé, doit être passé par le curandero à travers la fumée du copal, qui est, comme vous le savez, une résine blonde extraite de certains arbres américains, et qui joue probablement le même rôle que l'encens dans la religion catholique. Et d'autre part, on peut peut-être aussi assimiler ces fumées à celles qu'utilisaient autrefois et même dans l'Antiquité certaines pythonisses. Et puis alors il y a toute une série de produits, par exemple des graines de cacao, des haricots, il y a l'amaté, il y a le tabac vert, il y a la plume d'un certain cacatoès qu'on appelle le guacamaya, et toute une série d'objets dont le rôle de chacun pourrait être évidemment analysé, ou en tout cas pourrait faire l'objet d'hypothèses pour certains d'entre eux. Et puis alors, ensuite, le curandero, ou la sorcière, peu à peu, mâche les champignons. Ils sont difficiles à avaler, car ils ont un goût amer, assez désagréable. Si c'est le Mexicana, elle en prendra une vingtaine. Si c'est le cérulescent, elle en prendra 4 paires au maximum. Elle les mâche donc avec patience. Et puis, ensuite, on éteint les langes et chandelles. Et alors, c'est seulement à la lumière du flash que l'on peut assister pendant des heures au déroulement de ces cérémonies étonnantes. Peut-être une demi-heure après l'absorption, les premières actions commencent à se manifester. Et cette sorcière étonnante, qui s'appelle Maria Sabina, avec qui j'ai pu, à diverses reprises, avec mes amis Wasson, assister sous son égide, sous son commandement, j'allais dire, à ces manifestations curieuses, eh bien, au bout d'une demi-heure, ses yeux commencent déjà à étinceler, et peu à peu, son visage découvre un aspect nouveau. Ses traits se tendent, son regard commence à monter vers le ciel, peu à peu elle s'excite de plus en plus. Et puis alors elle commence à parler, et ensuite à chanter. Elle s'équitera pendant des heures, de plus en plus, puis bientôt elle scandera les chants qui vont emplir la pièce du rythme que ses mains frappées l'une contre l'autre impriment, comme une sorte de métronome qui s'excitera de plus en plus. Et autour d'elle, celles qui ont participé également à cette manifestation, et qui seront par exemple ses filles, réagiront chacune de sa manière. Et c'est là une séance inoubliable, notamment que nous avons pu filmer en 1961 avec 6 femmes également, l'une et l'autre, appliquées à ce genre de cérémonie. 6 sorcières, en somme, quoique ce nom me paraisse ne pas correspondre exactement à ce que sont ces sortes de femmes plus ou moins hystériques, étonnantes, qui sont évidemment tout près de, même si elles ne consommaient pas de champignons, tout près de la transmission de pensées, qui sont en quelque sorte préadaptées à faire des... présenter des divinations, faire des prédictions, car je suis tout de même extrêmement impressionné par certaines prédictions que Maria Sabina nous a faites à mon ami Wasson et à moi-même, qui se sont vérifiées d'une façon totale et étonnante au milieu de l'excitation dans laquelle elle se trouvait. Alors peu à peu, cette cérémonie prend une signification de plus en plus collective lorsque plusieurs personnes ont participé à l'absorption des champignons, et dans ce film, nous sommes arrivés à voir chacune de ces guérisseuses, pour employer un autre terme, réagir à sa manière, selon son tempérament, et c'est évidemment un spectacle absolument hallucinant de les voir chacune dans cet état d'excitation, mais chacune suivant les propres mouvements de son propre caractère et de toutes les ressources plus ou moins secrètes qu'il renferme. Et puis alors, peu à peu, ces femmes répondent aux questions qui leur sont posées. Car c'était au fond là aussi un des points pratiques peut-être de ce commerce qui consistait pour les guérisseuses à répondre aux questions qui leur étaient posées par des consultants.
Le personnage clé dans cette cérémonie est donc le curandero, c'est-à-dire le cueilleur d'herbe, celui qui en connaît les pouvoirs, cueilleur d'herbe, de plantes, de champignons, et en même temps le chaman, c'est-à-dire la Maria Sabina. Mais dans l'expérience nocturne, les lumières étant éteintes, le chaman reste un merveilleux télépathe. Il gouverne sûrement l'ensemble de l'assistance, il connaît certainement l'état de chacun, mais l'on doit distinguer, et M. le professeur M. vient de le faire, entre images, les images colorées si vous voulez, et d'autre part, divination, celle-ci impliquant d'ailleurs d'autres produits ou des produits ingérés en plus grand nombre, et cette divination indéniablement est basée sur un pouvoir télépathique qui semble être comme multiplié chez celui qui pratique. Qu'en pensez-vous ?
Je suis absolument persuadé qu'il faut distinguer les deux aspects. Et quand ils se retrouvent sur la même personne, ce qui est le cas de Maria Sabina, qui est à la fois une connaisseuse des plantes remarquable, et d'autre part, évidemment, cet aspect divinatoire que vous venez de soulever, qu'elle manifeste, qu'elle représente, qu'elle développe d'une façon absolument étonnante. Je fais allusion aux prédictions qu'elle avait faites à M. Watson et à moi-même, et évidemment, même pour les scientifiques, nous sommes restés quelque peu inquiets sur le pouvoir étonnant d'une femme de cette nature.
Il s'agit en effet d'un être merveilleux, très belle indienne cuivrée, petite, courte, ramassée, le visage buriné, et ses yeux et ses mains savent très nettement et peuvent vérifier l'état de chacun. Maria Sabina aime bien savoir à qui elle a affaire, on ne peut d'ailleurs avoir accès près d'elle que dans certaines conditions, et elle demande qu'on veuille bien lui présenter nommément chacun. Il faut qu'elle connaisse le prénom, c'est très important, et aussi elle souhaite connaître la ville d'où l'on vient.
Oui, et pour les Indiens, c'est la señora. Ce n'est pas simplement une simple guérisseuse, c'est la grande dame.
Bien, je vous remercie, monsieur le professeur, de votre témoignage.
La liberté coupable, troisième série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes, une suite d'émissions composées par René Tsellier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, le chaman avec Roger M., directeur du muséum. Assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 9 novembre 1963. À suivre.